Secure épisode spécial, je suis accompagné de Julien. Comment vas-tu?
Très bien, et toi, depuis la dernière fois?
Oui, très bien aussi depuis la dernière fois. Nous sommes à notre troisième épisode de notre série Netflix, comme tu mentionnais, sur tout ce qui est souveraineté numérique, cloud, souverain, et ainsi de suite. Troisième épisode, on va faire un peu la boucle, puis c'est ça qui est magnifique. On va aborder Secnum Cloud, qui est un peu à l'intersection de la conformité et de la gestion de risque. C'est un univers un peu différent qui est, à mon avis, beaucoup plus complet que qu'est-ce qu'on peut voir des cadres de conformité de plus américains qu'on a l'habitude, en tout cas du moins au Canada, de travailler avec. On est dans un univers un peu différent, puis je pense qu'il y a un intérêt réel à s'y inspirer au Canada, du moins. Je vais te laisser abonder là-dedans, puisque vous avez fait l'exercice de conformité et d'analyse de risque associée à ce label-là.
Alors, alors peut-être pour expliquer ce qu'est Secnum Cloud, pour commencer, Secnum Cloud, c'est une qualification, qui est donnée par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'agence en charge de la cybersécurité en France. C'est un référentiel de sécurité qui a été créé il y a à peu près 7 ans pour les premières versions, 7-8 ans pour les premières versions, et qui visait à définir un standard de sécurité pour les acteurs qui visent à fournir des services de cloud à l'administration, aux grandes entreprises et aux acteurs importants pour la France et de manière plus étendue à toutes les entités économiques françaises. C'est un dispositif qui est pas unique pour l'ANSSI, puisque l'ANSSI définit des référentiels pour plusieurs types d'acteurs. C'est ce qu'ils appellent les visas de sécurité, donc une sorte de label pour le coup qui est donné à tout un ensemble de fournisseurs de services. Et Secnum Cloud, c'est pour les opérateurs de cloud, mais il y en a aussi pour les prestataires d'audit, les prestataires de maintenance informatique, les sociétés de services, etc., etc. Donc je crois qu'il y a une petite dizaine de référentiels qui sont soit en production, soit en cours de développement. Et l'idée, c'est l'ANSSI et la France développent un écosystème de confiance pour l'environnement économique local, qui permet de s'assurer que les acteurs de la cyber et des services associés à la cybersécurité soient bien alignés avec les exigences formulées par l'Agence de sécurité des systèmes d'information. Quand Secnum Cloud a été publié, le marché de manière générale a pas mal hésité parce que c'était un référentiel assez compliqué, assez dense. Il y a eu pas mal de questions qui se sont posées à l'époque sur est-ce que ça a vraiment du sens de créer une nouvelle certification alors qu'il y en avait déjà. On a déjà plein. Chez OVH Cloud, à l'époque, le choix, il n'était pas évident. On a mis assez longtemps avant de se décider à franchir le pas. Typiquement, on n'était pas rentré dans la phase expérimentale, la première phase. On a attendu que le référentiel soit officiellement publié pour lancer la démarche. Et ça a été un choix qui était pas évident. Alors, il y a 6 ans, il y a 7 ans, le contexte n'était pas du tout le même. La souveraineté, c'était pas vraiment un sujet, le marché n'était pas du tout sensibilisé à cette problématique-là. Et à l'époque, tout le monde imaginait le cloud comme un marché réservé à quelques grands acteurs de taille internationale qui allaient proposer ça sous forme de commodities standardisées pour tout le monde. On a pris la décision à l'époque, on a pris une bonne décision, parce que c'est structurant et ça crée de la valeur, de se positionner sur un produit, donc qui était hosted private cloud, donc des environnements de virtualisation privative, c'est-à-dire vous avez du matériel dédié avec un environnement d'exécution basé sur les technologies VMware, qui était à l'époque le produit qui répondait au plus de use cases. C'est-à-dire qu'il ne répondait pas à tous les use cases ultra pointus, mais par contre, il avait un champ d'application extrêmement large, et c'est ce qui fait qu'il était très utilisé par nos clients entreprises, moyens et grands comptes qui sont ceux qui sont les plus exigeants et qui avaient le plus d'attentes en sécurité. Il y avait aussi des caractéristiques en termes d'opérations qui faisaient qu'on était assez facilement, alors je mets des guillemets sur le assez facilement, c'était un des produits les plus faciles à instancier dans un contexte d'exécution particulier qui permettait de respecter le référentiel. Du coup, on a fait ça au tout début, parce qu'on devait être les quatrièmes en France à être qualifiés Sectum Cloud sur ce produit-là, et c'est un produit qui se vend très bien, qui marche très bien, et on a décidé, alors le contexte géopolitique évoluant, c'est devenu de plus en plus une évidence que la souveraineté et la maîtrise de son destin technologique était de plus en plus important. C'est devenu une évidence qu'il fallait qu'on développe notre catalogue, en tout cas une partie importante de notre catalogue, dans un contexte dit souverain, de confiance, et que un des marqueurs de cette souveraineté et de cette confiance, c'était cette qualification Sectum Cloud. Du coup, on a continué à enrichir notre produit initial, celui sur lequel on a commencé la démarche, et depuis, on a lancé une deuxième qualification sur un socle technologique différent qui s'appelle Bare Metal Pod, qui est un environnement vraiment de data center dédié, donc c'est des baies de serveurs dédiés qui vont être affectés au client avec tout un environnement qui permet d'orchestrer ces serveurs et de déployer des applications, des environnements techniques, orchestrés par des briques OpenStack. Et du coup, on a fait qualifier ce produit, on a obtenu la qualification il y a quelques mois. Donc, et l'avantage de cette approche-là, c'est que maintenant, on va pouvoir construire tout notre catalogue sans avoir les limites que nous imposait aussi Private Cloud, qui forcément, par les choix technologiques liés à la plateforme, faisait qu'on pouvait pas déployer ce qu'on voulait dessus. Et du coup, là, maintenant, on a beaucoup plus de capacités à l'avenir pour pouvoir déployer tout notre catalogue dans un contexte. Et c'est ce qu'on fait. On a une roadmap hyper ambitieuse pour porter les produits standards de VH Cloud dans un contexte Sectum Cloud et être capable progressivement, dans ce contexte qualifié, de proposer un catalogue de plus en plus riche. Donc, n'hésite pas à m'interrompre si tu veux
creuser. Ce que j'allais dire, puis parce que c'est un point important sur ce que tu mentionnes, c'est vraiment des produits spécifiques. Puis dans ce que je vois, c'est des produits spécifiques qui sont dédiés à des besoins. Dans le fond, on en fait du bare metal. Dans ce cas-ci, c'est très spécifique comme besoin. Ou même des parcs VMware aussi privatifs. C'est aussi très spécifique. Donc, je vois que vous avez construit donc nécessairement de la base. Et c'est au-delà d'une SOC, c'est vraiment une fondation très, très, très de base sur laquelle vous avez fait évaluer vos services conformes. Donc, maintenant évaluer. Donc, vous allez. Puis c'est un peu ce que tu mentionnes, vous allez construire le reste, vous allez reconstruire votre ensemble, votre catalogue sur des bases qui sont déjà normalisées, labellisées Sectum Cloud.
Ouais, effectivement. Alors il y a une vision orientée client, donc qui ont besoin d'infrastructures de volume et de capacité de calcul, et avec cette capacité de gestion nous fournit le produit. Mais là, on s'adresse à des très grosses structures, enfin des grosses structures ou des très grosses structures, à des éditeurs de logiciels, à des sociétés de services qui vont déployer des projets pour le compte de leurs clients. On s'adresse pas à la petite start-up du coin qui a besoin de ressources. Par contre, dans un deuxième temps, c'est ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, nos équipes produits vont consommer cette brique de base comme nos clients et construire leurs solutions et leurs produits sur cet environnement-là, exactement comme le ferait un éditeur de solutions logicielles SaaS qui prendrait du Bare Metal Pod pour construire sa solution. Nos équipes produits vont faire la même chose. Du coup, si on... Je pense qu'il faut qu'on explique un petit peu ce qu'est Sectum Cloud en détail pour expliquer qu'est-ce que ça change par rapport à nos produits cloud standards.
Absolument. Puis c'est là que je rebondis sur ce que je disais. Quand vous avez reconstruit une offre complète basée sur ça, contrairement à ce qu'on voit, disons, avec du SOC 2, ISO 27000 ou des choses, ça va être soit l'ensemble ou une partie qui est certifiée. Donc, facilement avec des guillemets, là, mais peut-être plus facilement en l'occurrence qu'avec Sectum Cloud, parce que le processus est plus complet et plus, invasif de la part que Sectum Cloud fonctionne. Mais en même temps, donc, vous avez cette obligation-là de construire vraiment de zéro, contrairement à juste, on a quelque chose, on certifie, on coche des cases, puis on avance.
C'est ça. Bah, en fait, l'environnement d'exécution, et j'expliquerai pourquoi après, il est complètement autonome. C'est-à-dire que globalement, les gens qui travaillent, enfin, le système d'information qui opère les produits Secnum Cloud, c'est un deuxième système d'information, donc c'est un plus petit OVH Cloud, qui est pas à la même échelle que le reste de vos produits, parce que évidemment, on n'est pas à la même taille, mais on a toutes les primitives qui sont nécessaires pour faire tourner un environnement produit avec toute l'automation. Et ça veut dire jusqu'au poste de travail des utilisateurs. Aujourd'hui, un administrateur qui va se faire de l'administration Secnum Cloud, il a une machine physique dédiée pour travailler dans le monde Secnum Cloud. Et s'il fait aussi des opérations dans le monde normal, il va avoir une machine d'administration normal, pour le monde normal, où il va se connecter à un VPN, le VPN d'OVH Cloud, il va utiliser les bastions, les systèmes de monitoring, d'observabilité, etc. d'OVH Cloud. Quand il va travailler dans le contexte Secnum Cloud, il va avoir son laptop Secnum Cloud, il va se connecter à un VPN Secnum Cloud, et il va travailler sur un contrôle plein avec l'observabilité, les bastions, la IAM, etc., qui sont spécifiques à Secnum Cloud. Et aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas tous les services du système d'information d'OVH Cloud disponibles en contexte Secnum Cloud, mais il y a tout ce qui est nécessaire pour opérer un produit et faire de la production. Donc, évidemment, on n'a pas la comptabilité, le système de tickets clients, etc. Mais par contre, tout ce qui permet d'opérer le service est dupliqué dans un contexte Secnum Cloud complètement autonome, sans aucun lien direct avec le système. Et c'est ça qui fait que c'est très compliqué, parce que on doit reconstruire de zéro tout un environnement d'exécution autonome et suffisant. Et quand on connaît un petit peu les architectures d'un cloud, de gestion d'une infrastructure complexe, en fait, on a énormément de dépendances. On a un arbre de dépendances extrêmement complexe où chaque service va dépendre d'un Kubernetes, va dépendre d'observabilité, va dépendre de gestion d'IAM, va dépendre de briques de déploiement de code, etc., etc. Et du coup, quand on est dans le contexte avec une cloud, en fait, il faut soit apprendre à se passer de ces primitives qui sont bien pratiques, qu'on utilise dans le monde normal, soit les redéployer dans un environnement spécifique. Du coup, c'est ça qui est hyper compliqué. Atteindre le niveau de sécurité qui est attendu par Secnum Cloud, même si évidemment c'est un niveau très élevé, c'est challengeant, c'est un travail qu'on a l'habitude de faire mais qui prend du temps, vraiment dupliquer toute l'infrastructure et concevoir des opérations de run avec des équipes qui sont uniquement localisé sur le sol européen, c'est très long, c'est compliqué. Il y a de l'architecture, il y a de l'investissement en matériel, en salle, en mètre carré, en RH, en humain, en process. C'est très, très, très compliqué, et c'est ça qui prend du temps. Beaucoup plus que juste atteindre un bon niveau de sécurité sur la plateforme.
Ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus profond comme changement. Et comme tu le mentionnes, c'est un volet de réarchitecture de base qui part de zéro, puis même jusqu'à la sécurité physique, sécurité du personnel et tout, ça touche vraiment tous les aspects de ce que vous avez. Donc, c'est quand même un travail gigantesque d'avoir passé de ça puis d'avoir établi les premières bases. Et puis, en ce sens, c'est intéressant d'avoir choisi un produit test comme les fermes d'Appervisor de VMware, mais ensuite d'aller en bare metal vraiment, puis comme tu mentionnes, vous permettre de reconstruire de zéro l'ensemble de l'offre dans un environnement qui est certifié et qui va poser des défis aussi, parce que reconstruire l'offre, puis dans ce que j'en comprends, c'est pas juste on prend ce qui était avant, on le met dans Secnum Cloud. Il y a quand même de la réarchitecture, de la refonte à faire et de la reconstruction de ces services-là qui vont respecter les grands principes de Secnum Cloud pour qu'ils soient certifiables par la suite.
Oui, parce que avant de zoomer sur les exigences du framework, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un opérateur de cloud, quand on opère, on va dire, 50 000 environnements clients, en fait, on a des centaines de serveurs, voire des milliers de serveurs qui servent à faire tourner l'automation, l'observabilité, la gestion des droits, l'environnement d'exécution de toutes ces fonctions-là. Et du coup, on a plusieurs centaines de machines qui sont extrêmement complexes à gérer, à déployer, à opérer. Et du coup, quand on repart du sol, en fait, il faut reconstruire complètement tout cet environnement d'exécution. On ne peut pas capitaliser sur ce qui existe déjà. Et alors, au-delà de la complexité à le faire, il y a aussi une complexité à le décider. C'est-à-dire que quand on décide de faire une zone SecNumCloud, on sait que entre le moment où on prend la décision et le moment où le premier serveur du premier client va être allumé, il va se passer 18 mois et on va investir énormément d'argent pour acheter du matériel, pour passer du temps, pour déployer des choses. Alors que c'est des choses qui existent à côté et qui fonctionnent déjà. C'est ça qui est difficile qui est difficile à faire. Et du coup, c'est un investissement et un projet qui est très, très compliqué, parce que, c'est un vrai investissement avec un retour sur investissement qui vient longtemps après.
Ouais, puis basculons un peu sur justement le volet plus technique. Qu'est-ce que c'est que SecNumCloud, au-delà du fait que c'est le label, comment on s'y rend, comment est-ce que vous avez fait, puis dans le fond, dans le travail des exemples que tu vas pouvoir partager un peu sur les requis, qu'est-ce que c'est, puis comme votre processus de labellisation de votre premier service et ensuite de votre deuxième service?
Alors, déjà, juste pour comprendre l'aspect conformité, parce qu'il y a des chiffres qui sont assez intéressants. SecNumCloud, quand on récupère le document public, et vous pouvez le récupérer, il est sur le site de l'ANSSI, il est facile à trouver, c'est à peu près 250, 280 exigences à répondre. Il y a 280 exigences, c'est déjà beaucoup. Sauf que quand on regarde en détail, en fait, il y a beaucoup d'exigences qui disent il faut respecter les recommandations de tel livre, de tel guide, de tel guideline. Et du coup, quand on regarde dans le détail de chacun de ces guides, parce que l'ANSSI a écrit beaucoup de guides, et du coup, bah, il demande effectivement à ce qu'on respecte les bonnes pratiques de gestion TLS, de gestion de hardening Linux, etc., etc. En fait, on multiplie très vite par 5 le nombre d'exigences. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les exigences, elles formulent un objectif. Et derrière, chaque organisme d'audit qui va auditer SecNumCloud a décliné chacun des contrôles en points de contrôle détaillés qui sont à observer sur les systèmes et qu'ils ont fait valider par la pour dire voilà comment on prévoit d'auditer cette exigence-là et voilà ce qu'on va demander. Et du coup, quand on étend complètement la liste des exigences de SecNumCloud, on arrive aux alentours de 2000 exigences à respecter. 2000 exigences, rien que les lire, ça prend des semaines. C'est juste s'approprier l'intégralité des exigences, c'est quelque chose qui est quasiment pas faisable par un humain tout seul. En fait, ça nécessite d'être rangé, d'être splitté, d'être organisé. Avant même qu'on ait commencé à changer quelque chose pour améliorer la sécurité, il y a tout ce travail de digestion du framework, du standard, qui est déjà très 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 dense et très compliqué. Donc ça, c'est un exercice qu'on a fait. On s'est approprié la connaissance du référentiel, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a certes être conforme à ces 2000 points de contrôle, et derrière il y a en plus un regard par les risques, c'est-à-dire qu'une fois qu'on pourrait être conforme à tout et ne pas être certifié, ne pas être qualifié SecNumCloud, parce que on a répondu point à point aux exigences de conformité. Alors, a priori, ça va bien se passer quand même, mais on pourrait avoir des choix d'architecture et des choix de design qui sont pas bons, qui font qu'on n'est pas conforme, qu'on n'est pas qualifié SecNumCloud, alors que d'un point de vue purement compliance, on a tout bien fait en détail. Du coup, on a le pire des deux mondes ou le meilleur des deux mondes, suivant comment on le voit. C'est des exigences de conformité extrêmement strictes avec un process d'audit très lourd. Les audits, c'est quasiment 60 jours d'auditeurs chaque année. Donc on a 4 auditeurs qui viennent pendant quasiment 3 semaines, 3 semaines chaque année. Donc 4 auditeurs qui font 4 séries d'entretiens en parallèle dans les équipes qu'il faut organiser, il faut les emmener manger, il faut organiser les rendez-vous. Enfin, ça occupe 4 personnes à temps plein dans mon équipe pendant cette période-là. Du coup, ça fait travailler beaucoup de monde et ça fait travailler les auditeurs, l'équipe qui organise la logistique et le suivi des auditeurs, plus tous les opérationnels qui sont interrogés, interviewés et qui vont montrer des preuves sur les systèmes. Du coup, pendant un mois, on ne fait que ça. On fait littéralement que ça. Mais il y a aussi des réunions, beaucoup de réunions en amont pour expliquer la démarche de réduction de risque, expliquer les architectures, expliquer les choix techniques qu'on fait, parce que quand bien même l'ANSI, ils sont très très bons, ils ont des super experts techniques, ils sont pas capables d'anticiper toutes les architectures et tous les cas d'usage. Où il faut quand même discuter, il faut expliquer ce qu'on fait, il faut expliquer à quoi ça sert, il faut expliquer comment ça fonctionne. En avance de phase pour s'assurer que les choix qu'on a faits sont bons. Pendant l'audit, on va l'expliquer aux auditeurs et donner des preuves qu'on a bien respecté le référentiel. Et après l'audit, quand les auditeurs vont trouver des écarts, des déviations, ou qu'on n'est pas d'accord avec eux sur est-ce qu'on est conforme ou pas, il y a de nouveau des discussions avec les auditeurs et l'ANSI sur justement la mise en perspective risque. Et puis, évidemment, sur 2000 exigences, il y en a forcément sur lesquelles on n'est pas complètement conforme. Au final, ils trouvent qu'on n'est pas conforme. Et du coup, derrière, il y a toute une partie gestion des plans d'action correctifs à mettre. Du coup, c'est un travail assez colossal de gérer ça. Il y a un très, très gros investissement pour lancer la démarche, pour construire la structure qui permet de gérer les qualifications SecNumCloud. Et du coup, maintenant qu'on a ça, effectivement, maintenant la machine est lancée, on a toute cette structure et on cherche évidemment à la rentabiliser, à la capitaliser au maximum pour s'appuyer sur tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qu'on a déjà validé, les architectures qui sont déjà validées par les experts de l'ANSI et nos auditeurs pour essayer de construire et d'aller chercher plus de valeur pour nous.
Oui, puis dans les informations qu'ils vont récupérer, parce que pour ceux qui sont plus habitués au référentiel américain, on a déjà des éléments qui viennent cadrer. Comment SecNumCloud vient, ça, j'imagine qu'ils doivent jouer dans les mêmes zones. Il y a une limite à la réinvention. Mais comment ça se répercute dans la façon ou l'approche que l'ANSI va venir vérifier? Les points de contrôle vont ressembler à quoi? Est-ce qu'il y a des points de contrôle dans l'univers physique, humain, technologique? Les points d'architecture, tu mentionnais, l'architecture, c'est flou, c'est pas comme un contrôle facile. Oui, la règle est là. Donc, un point de vue, tu mentionnes justement, il y a de la négociation sur l'architecture parce qu'on peut débattre sur la valeur de l'architecture et ainsi dans le passant en risque. Comment ça se représente, ces différents contrôles? Sans nécessairement, on donne pas un cours à chaque nucléaire, là. Allez faire votre cours. Puis, comme tu disais, ça prend des heures, des semaines d'appropriation. Mais comment pour vous qui l'avez passé à travers, et donc notamment à travers votre premier SOC qui vient moins?
Alors, il y a des problématiques effectivement assez classiques qu'on va retrouver dans tous les référentiels de sécurité. Sécurité physique, sécurité logique, gestion des droits d'accès, etc. Il y a tout un ensemble de mesures de sécurité assez banales qu'on va retrouver assez souvent. Il y a les exigences qui sont liées à la souveraineté, qui sont spécifiques et qui ont un impact sur les architectures et sur les organisations. C'est-à-dire que quand on dit que les opérateurs doivent être localisés sur le sol européen, que la structure doit être indépendante d'interférences étrangères, etc., ça veut dire qu'il y a des critères à respecter en termes de structure légale, en termes d'organisation, en termes de localisation des équipes, en termes d'organisation du support, de gestion des éventuels sous-traitants, du troubleshooting, etc. Du coup, ça veut dire que par rapport à notre... Il n'y a pas une bonne pratique qui marche pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut regarder les exigences, les comparer par rapport à nos activités et la manière dont on est organisé et adapter nos process, notre organisation, notre architecture pour respecter le référentiel, évidemment, mais surtout que nos process continuent à fonctionner. Et du coup, derrière, les auditeurs vont... Parce qu'on dit que c'est difficile d'être audité, mais c'est aussi difficile d'être auditeur, parce que eux aussi, quand on a 1850 points de contrôle, tout à l'heure je disais, ils sont 4 pendant 3 semaines, mais ça veut dire qu'ils doivent découper quasiment 2000 points de contrôle en 4 en 3 semaines. Du coup, ça veut dire 500 points de contrôle chacun à vérifier en 15 jours, 15 jours hommes de travail. Donc en vrai, c'est aussi difficile pour eux. C'est une course contre la montre parce que 500 points, ils doivent en temps réel d'avoir une approche sur les risques pour essayer d'identifier quels sont les points de contrôle qui sont les plus risqués, les plus importants, etc. Tout en ayant une couverture complète parce qu'ils doivent quand même tout auditer et retranscrire à l'ENSI la sortie de leur audit pour expliquer qu'ils ont bien fait leur travail en tant qu'auditeur, expliquer les non-conformités qu'ils ont trouvées avec lesquelles souvent on n'est pas d'accord et on va aller défendre notre position face à eux, face à l'ENSI qui doit trancher. Du coup, si on a 20-50 points sur lesquels les auditeurs considèrent qu'on n'est pas conforme alors que nous on considère qu'on est conforme, ça fait des débats qui sont aussi longs, compliqués et qui s'enchaînent pendant des semaines. Du coup, alors évidemment le plus simple c'est d'être 100% conforme avec l'ENSI, aligné avec l'architecture qu'on a proposée et les auditeurs qui trouvent que ce qu'on a fait, c'est super. J'aimerais bien que ça se passe toujours comme ça. La réalité est souvent un peu plus compliquée. En général, ça se passe comme un audit, un peu sous le même format qu'un audit ISO 27001, mais sous stéroïdes. C'est-à-dire qu'un auditeur ISO 27001, il va regarder qu'il y a un process, regarder quelques exemples de preuves pour vérifier que le process fonctionne bien. Et s'il a un doute, il va creuser en profondeur pour aller vérifier, soit lever le doute qu'il a, où il se dit là, il y a quelque chose qui ne va pas, soit aller chercher vraiment la petite bête et démontrer qu'il y a un problème. Sur Secnum Cloud, les auditeurs font ça quasiment systématiquement. Du coup, ils sont dans cette logique d'aller creuser tous les points en profondeur et d'aller vérifier qu'il n'y a pas de loup, que ce n'est pas juste des procédures de pure compliance qui ne sont pas appliquées, que quand il y a un problème opérationnel ou en tout cas qu'ils se rendent compte qu'il y a un souci, ils doivent réfléchir à est-ce que le souci c'est un bug, une erreur locale ou est-ce que c'est un problème de process qui montre que le processus n'est pas fonctionnel dans la durée. Et du coup, ils vont faire cet exercice-là de manière hyper systématique, là où dans des audits un peu plus légers comme ISO, SOC, etc., il va y avoir cette approche-là, mais de manière ponctuelle sur certains points. Là, ça va être beaucoup plus systématique. Ce qui fait que les audits vont très en profondeur et vu qu'ils sont quatre auditeurs, on a en général un auditeur organisationnel, un auditeur sécurité physique et deux auditeurs technique IT. Du coup, ils peuvent vraiment creuser et se donner à cœur joie dans leur domaine d'expertise. Et en général, on a l'expert crypto qui va aller creuser les ciphers, les configurations, etc. Et puis, il y a un architecte ou quelqu'un qui a une approche qui va du coup challenger la cohérence des infrastructures. On apprend et on progresse aussi. C'est-à-dire les audits, ça ne sert pas juste à donner un tampon si ça se passe bien ou un coup de fouet si ça se passe mal. C'est aussi un moment où on prend le temps de réfléchir et de prendre de la hauteur par rapport aux choix opérationnels qui ont été faits, etc. Et d'avoir un regard extérieur qui vient challenger, poser des questions, un peu nous chahuter dans nos convictions, en sachant que derrière, on a quand même l'arbitrage de l'ENSI, si jamais on est vraiment très très sûr de nous et que les auditeurs considèrent qu'on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, cette relation à trois, elle marche bien, mais elle a un coût opérationnel. C'est-à-dire que dès qu'on doit se synchroniser à trois, il suffit de déjà trouver un créneau pour faire un meeting à deux, c'est compliqué. Dès qu'on est à trois avec deux ou trois personnes par entité, très vite, organiser un meeting, c'est dans deux semaines, c'est dans trois semaines. Et du coup, si on a 25 points à discuter en meeting, très vite, ça prend trois mois, quoi. Donc, il y a des aspects logistiques à gérer qui sont aussi compliqués et pas uniquement les sujets de discussion sur le fond. Mais ça, pour le coup, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille énormément avec l'ANSI et avec des auditeurs pour essayer d'optimiser ça et d'anticiper les points sur lesquels il va y avoir des divergences ou des potentielles divergences pour les déminer le plus tôt possible, échanger, valider, formaliser les décisions qui sont prises, etc. Bon, évidemment, on peut toujours progresser, mais c'est un sujet sur lequel on a mis quasiment 4-5 ans avant de commencer à être efficace. Donc, c'est un apprentissage qui est aussi compliqué sur ce sujet.
Oui, tout à fait. Et de toute façon, c'est somme toute un référentiel relativement jeune, avec un élément relativement jeune, si on compare à beaucoup d'autres éléments sur le marché. Donc, c'est tout à fait normal que ça soit un peu difficile au début et que cela va se normaliser et se faciliter avec le temps. L'expérience rentrant, les auditeurs ayant l'expérience qui rentre aussi vont être capables d'aller plus vite. Et comme vous autres aussi, vous le vivez avec cette accélération-là, avec le temps, l'amélioration puis la facilité, c'est une situation normale d'un élément qui grandit, qui prend maturité puis qui tend à s'imposer aussi également. Je suis intrigué par le volet gestion de risque, parce que faire de la conformité, c'est facile. On demande des preuves, on coche, on avance ou on négocie un peu, mais la négociation n'est pas très grande. Quand on arrive en analyse de risque, là, on est plus dans la capacité d'analyse de l'auditeur, en l'occurrence, et de l'autre côté, de votre capacité à refléter votre travail d'analyse. Comment ça se vit? Parce que ça m'intrigue un peu plus, parce que ça, on le voit pas. Ça c'est dans un contexte de labellisation, c'est pour moi assez neuf.
Alors, sur les risques inhérents aux plateformes, il y a assez peu de négociations. C'est-à-dire que le référentiel de compliance y est tellement détaillé que globalement, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'a pas trop le choix. Par contre, dans les choix d'implémentation, sur la manière dont on va isoler les contrôles pleins et les data pleins, la manière dont on va monitorer ce qu'on appelle les interfaces sécurisées, donc les secure gateways, la manière dont on va les opérer, la manière dont on va les monitorer, la manière dont on va sortir des données, des métadonnées du périmètre pour les traiter sur des systèmes typiquement, les logs, est-ce que on veut avoir des logs purement techniques, est-ce qu'ils ont besoin d'être traités avec sur des infrastructures aussi sensible que les données des clients? Non. Mais par contre, il faut être capable d'expliquer pourquoi que les données sont moins sensibles, qu'on est capable de les désensibiliser et de s'assurer qu'elles contiennent pas de données sensibles. Parce que avoir toutes les données, toutes les métadonnées à l'intérieur du carcan le plus sécurisé, ça rend aussi les opérations compliquées. D'alerting, de troubleshooting, de monitoring par les équipes. Typiquement, un client qui va appeler le support, il faut que le support il ait la capacité de donner quelques informations sur le client, sur le statut de son service, sur est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des incidents. Et ça, c'est pas possible que la personne qui soit au téléphone, elle se connecte à 3 VPN et monte 3 bastions. Du coup, il faut qu'on ait la capacité de sortir du monde SecNumCloud des informations désensibilisées qui permettent de rendre le service de permettre aux gens de travailler de manière efficace. Et du coup, ça se fait avec une analyse de risque pour dire la valeur des données, leur sensibilité, elle est décroissante en fonction des filtres et des traitements qu'on applique. Et du coup, on va mettre en place tous ces mécanismes de filtrage, de désensibilisation, d'anonymisation, etc., des données qui vont permettre d'avoir ces données exposées dans des environnements un petit peu moins sécurisés, mais plus faciles pour travailler. Et ça se démontre avec une analyse de risque. Et du coup, on va expliquer quels sont les risques desquels on veut se prémunir, expliquer que sortir ces données par tous ces mécanismes de Secure Gateway dont je parlais tout à l'heure, va permettre de garantir qu'il y a uniquement des données avec un niveau de criticité ou de sensibilité qui est bien compris et bien défini qui vont sortir, et qu'on expose nos clients à aucun risque en le faisant. Et ça, tout ce travail d'explication pour expliquer que les choix qu'on a faits, c'est-à-dire les assouplissements qu'on va mettre par rapport au niveau maximum pour pouvoir rendre le service et que ça soit quand même utilisable, parce que c'est quand même le but, on le fait sans toucher du tout au risque inhérent, au risque initial qu'on veut courir. Et ça, cet exercice-là, c'est l'analyse de risque. L'ANSI impose des risques à courir dans cette méthode. C'est-à-dire que dans le référentiel Cloud, on a une liste de risques qui doivent être prises en compte. Du coup, on va dire que ça, c'est les risques qui sont les risques obligatoires à traiter. Du coup, cela, on sait que on va pas pouvoir faire un choix d'architecture ou un choix de technologie ou un choix d'organisation où on prend des risques sur cette liste de risques-là. mais par contre, on peut le faire pour d'autres. Et du coup, nous, on rajoute nos risques à nous, qui sont les risques sur lesquels on se commit vis-à-vis de nos clients, donc qui sont ceux qui sont prévus par l'ANSI, plus les caractéristiques de nos produits et du service qu'on rend transformés en risque, pour expliquer les mécanismes qu'on met en œuvre et les risques résiduels qu'on accepte.
Oui, puis de ça, on va basculer sur le fait que vous allez construire votre service sur sur votre future infrastructure. Le fait d'avoir labellisé l'infrastructure de base, est-ce qu'il y a un avantage pour ce que vous allez construire par-dessus? Par la suite, vous allez devoir passer par des processus aussi exigeants pour tout le stack que vous allez remonter sur votre chose. Donc, incidemment, les clients qui déposent chez vous leur charge de travail ont aussi du travail à faire de leur côté pour être capable de sécuriser adéquatement les informations au-delà du fait que vous offrez déjà le socle de base qui est normalisé.
Alors, ouais, en fait, c'est un système en couche. Là aujourd'hui, notre produit Bare Metal Pod, qui est globalement une baie de serveurs qui sont dédiés avec des couches d'orchestration pilotables par le client. Si on décide de construire un service, et d'ailleurs, c'est pas si on décide, puisqu'on a décidé de le faire. Quand on décide de faire une offre de cloud publique sur cet environnement-là, la nature de risque, elle évolue. C'est-à-dire que quand vous fournissez à un client une baie entière qui est complètement affectée, le risque, en fait, il y a très peu de risques qu'un client à côté puisse sortir de son contexte et venir, puisqu'il y a un niveau d'isolation extrêmement fort. Quand vous avez des machines virtuelles qui tournent sur la même machine ou sur la machine d'à côté, qui appartiennent à deux clients différents, là, effectivement, on doit mettre en place des mesures additionnelles pour confiner chacun des clients dans son contexte d'exécution et éviter les problématiques de noisy neighboring, de sortie de contexte, etc., qui sont des risques qu'on couvre basiquement dans un contexte où on est sur du matériel dédié par client, forcément, mais par contre, dans un environnement mutualisé, ça devient des risques qui sont extrêmement forts. Du coup, on s'appuie sur tout le socle de conformité et de gestion de risque qui est mis en place sur la plateforme, mais on rajoute et on construit la réduction des risques additionnels qui sont liés à la nature des produits. Du coup, c'est tout ce travail-là qui est en train d'être fait. L'avantage de partir, de faire du Lego avec ces briques-là, c'est qu'on n'a pas besoin de requalifier le socle à chaque fois. Du coup, on travaille par différentiel. Et du coup, ça nous permet non seulement de faire uniquement le delta, mais même aussi dans la discussion qu'on va avoir avec l'ANSI, avec nos auditeurs, ça permet de nous concentrer vraiment sur les risques spécifiques aux produits dans le contexte d'exécution, sans avoir à revoir tout l'empilement des risques qui vont jusqu'au risque du data center, parce que ceux-là, ils ont déjà été vus auparavant.
C'est très intéressant. Puis là, on va basculer sur le volet d'exportabilité de Secnum Cloud. Même si les gens, puis on peut peut-être aborder un peu le volet européen aussi au passage, les Français sont en avance, même s'il ne faut pas le dire trop fort. Ils ont été très actifs sur cette élaboration-là et ont été clairvoyants sur comment le marché allait changer, comment la situation géopolitique allait changer. C'est un coup de dé parce que ça aurait pu ne pas donner ça, un peu comme on se mentionnait en amont, que c'était peu populaire quand ça a été élaboré. Maintenant, c'est un sujet qui anime tout le monde. Donc, de passer d'un à l'autre, je sais qu'il y a des initiatives européennes pour similaires à ça. Et pour moi, ce qui me préoccupe, parce qu'on a un peu une situation similaire, c'est l'exportabilité au sens canadien de cette approche-là. Au-delà du fait que ça ne sera pas labellisé par l'ANSI pour des raisons évidentes, mais quand même, tout ce processus, ce chemin, cet acquis que vous avez, parce que vous avez un acquis très important, de pouvoir le répéter à d'autres endroits, notamment au Canada, pour arriver avec un niveau équivalent, peut-être pas labellisé, mais au moins équivalent en termes de valeur et d'ajout et de souveraineté qui est acquis par cette expérience-là.
Ouais, alors il y a deux volets dans la question. Le premier, c'est sur les différents pays. Alors nous au niveau européen, là effectivement, c'est que Nucleat, c'est un des référentiels les plus exigeants en Union européenne. Il y en a d'autres dans d'autres pays. Il y a C5 en Allemagne, il y a ENS en Espagne, il y a AGID, maintenant ça s'appelle ACN en Italie, et il y a d'autres référentiels plus ou moins matures dans d'autres pays. Du coup, nous on est conforme et on travaille sur ces référentiels-là, du coup on les connaît en détail. Aujourd'hui, c'est que Nucleat, c'est le plus exigeant parce qu'il intègre ces critères de souveraineté et d'isolation d'environnement d'exécution. C'est ce qui le rend un peu unique par rapport aux autres. Il y a une démarche de normalisation au niveau européen pour avoir un référentiel de sécurité européen qui s'appelle EUCS, donc qui est en cours de négociation. Il est porté par l'ENISA, donc l'Agence européenne de sécurité, qui a beaucoup de mal à aligner les différents États membres sur, pas sur les sujets sécurité à proprement parler, mais sur les sujets justement de souveraineté. Est-ce qu'il faut avoir des critères de souveraineté dans un référentiel technique? C'est un débat politique et du coup, c'est assez difficile à trancher pour une agence dont le rôle est technique. Forcément, c'est pas leur rôle de faire de la politique. Et à partir du moment où les politiques sont pas forcément tous d'accord et tous alignés, bah c'est compliqué d'organiser le consensus. Nous, on essaye de. Évidemment, on suit ces sujets avec énormément d'attention et on participe aux workshops et aux groupes de travail. Et on est très actifs sur ces sujets-là, mais on essaye de tracer notre route en parallèle, en étant en cohérence avec ces discussions-là. Mais on n'est pas dans une optique d'attendre que le marché ou l'Union européenne ou la réglementation viennent décider ce qu'on veut offrir comme service. On est là pour offrir des services de cloud qui répondent aux attentes des clients et on doit anticiper que ces attentes de conformité, elles vont arriver et on doit s'y préparer. Mais avant, on doit d'abord proposer des environnements cloud qui répondent aux métiers de nos clients. Du coup, aujourd'hui, les plateformes qu'on a mis en place pour Secnum Cloud, Hosted Private Cloud, Secnum Cloud et par Metalpod Secnum Cloud et celles qu'on va lancer demain, elles n'ont pas été conçues uniquement dans une logique purement francophone et française. Ça a été conçu et designé pour être réplicable, duplicable dans d'autres contextes. Évidemment, à adapter localement, puisque le jour où le Canada voudra certifier ou des environnements de ce type-là, il y aura peut-être des exigences complémentaires, il y aura peut-être des mesures de sécurité ou des mesures qu'on a mis en œuvre qui seront pas pertinentes et qui seront pas attendues et qui coûtent cher et qui créent de la complexité qui est pas nécessaire. Mais du coup, il y aura une adaptation locale, mais par contre, le socle, le cœur du produit, ses caractéristiques principales, elles sont conçues et définies pour être en maîtrise locale de soi, enfin pour être en maîtrise locale et avoir zéro dépendance à des systèmes d'information tiers. Donc avoir vraiment des systèmes qui sont opérés localement et qui sont autonomes et indépendants de toute influence extérieure. Du coup, on l'a fait pour Sectum Cloud, mais demain, on le fera très probablement au Canada. C'est en cours de discussion et probablement dans d'autres pays. En Asie-Pacifique, on a des discussions avec certains dans certains pays pour répondre à ce besoin-là, parce que évidemment, il n'y a pas que la France qui est sensible à ces notions-là, et je crois savoir que le Canada l'est aussi très très fortement. Et du coup, on a vocation à dupliquer la plateforme, à l'adapter évidemment aux attentes locales et notamment aux attentes des grandes entreprises et des grandes administrations pour s'assurer que avec ce socle compliant, autonome, sous contrôle complet, on est capable de répondre aux attentes de chaque marché.
Ouais, puis c'est une expertise qui est quand même rare, puis c'est pour ça que je l'ai mis de l'avant, parce que il y a peu d'entreprises ou peu de cloudeurs qui ont mis le temps d'arriver à ce degré de séparation et de mise en place d'une autonomie locale et réplicable par dans les différentes juridictions, parce qu'effectivement, comme tu le mentionnes, l'appétit à la souveraineté va grandir. On en a abordé dans les deux derniers épisodes d'ailleurs. Ça va grandir et faut pas que ça l'empêche les gens de collaborer, faut pas que ça l'empêche, faut qu'on soit capable de mixer un peu les deux et d'arriver à la chose. Puis cette façon, cette expertise-là qui est exportable est très intéressante. J'ai fort l'impression qu'on va l'adopter ici éventuellement parce qu'il y a de plus en plus de d'intérêt à ça. La conversation, autant je parlais à des gens qui ne croyaient pas à ce que je disais il y a quelques années. Puis comme en France, la France a devancé, mais quand même, ça fait plusieurs années que je m'y intéresse, puis justement de voir comment la France se positionne et en anticipation. Puis moi aussi, donc, j'étais un peu clairvoyant, peut-être moins longtemps d'avance que la France, mais clairement sur le fait qu'à terme, on devrait arriver à des choses comme ça. Même si on collabore avec des multinationales, même si on collabore avec des choses comme ça, on n'est pas toujours dans le travail ou des choses comme ça, mais c'est important que cette connaissance-là soit faite. On fait un grand tour de SecNuclear et tout ce que ça comporte. Est-ce que tu as des aspects qu'on n'a pas couverts que t'aimerais aborder?
Non, peut-être pour aller encore plus loin dans l'exemple, c'est que là on parle de SecNuclear, on est dans un environnement opéré par le cloud provider pour le compte du client. Et quand je disais qu'on avait conçu le système pour être autonome, il y a une version de Bare Metal Pod qu'on appelle on-prem cloud platform qui a vocation à fonctionner dans les locaux de nos clients. C'est-à-dire si tu as un data center à toi, je te souhaite, tu peux commander une baie Open Cloud Platform, on-prem cloud platform, pardon, et avoir un fonctionnement qui soit opéré par nous à distance, on va se connecter, tu vas nous ouvrir une connexion réseau pour qu'on opère à distance, soit opéré directement par toi et tes équipes en autonomie complète, et nous on verra, on n'aura même pas accès aux données. Du coup, quand je dis c'est vraiment conçu pour être autonome, c'est même la brique unitaire est conçue pour être autonome, isolée et fonctionner de manière complètement autonome. Du coup, je sais pas si c'est le sens de l'histoire d'avoir tous les workload cloud qui fonctionnent at edge en autonomie. Probablement pas, parce qu'il y a des cas d'usage, et il y a beaucoup de cas d'usage où on a besoin de cette mutualisation et factorisation des ressources. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a les deux modèles. On a ce modèle cloud public très large qui permet de répondre à des cas d'usage avec une vraie facilité pour tous nos clients habituels. Et après, on a ces besoins spécifiques avec des engagements de sécurité, des engagements des commitments spécifiques sur la sécurité, la souveraineté, l'autonomie, etc. Et en vrai, je crois qu'on avait un peu évoqué ça dans le premier meeting, c'est que en gros, dans la première émission, c'est que on arrive à un moment où le marché il veut plus uniquement des offres standardisées one size fits all, mais il veut une personnalisation des offres de cloud. Et en fait, il veut un standard, et aujourd'hui, il y a des standards qui sont indiscutables, un standard technique, un standard en termes de consommation, en termes d'usage, mais en rajoutant ses contraintes, ses spécificités, ses exigences, ses souhaits, sa volonté, dedans pour avoir un produit qui répond exactement à ses besoins. Et ça peut être, dans certains cas, le respect de l'écologie, dans d'autres cas, le respect de l'autonomie stratégique, dans d'autres cas, ça peut être les coûts pour réduire au maximum les coûts financiers. Chaque client a des sujets sur lesquels il est particulièrement intéressant. Des acteurs comme EVH Cloud, ils sont là pour aller occuper ce terrain-là en proposant une proposition de valeur un peu alternative avec ces notions de maîtrise, de souveraineté, de respect de l'environnement, etc. Tout en proposant des clouds standards. Et du coup, des fonctionnalités de cloud qui se consomment de la même manière que chez nos concurrents. Et du coup, c'est un peu la perspective du futur du cloud. C'est des briques qui sont presque des commodities, très standardisées, des briques interchangeables pour construire ces systèmes d'information, avec des caractéristiques qui sont normalisées, qui sont les mêmes partout, et des caractéristiques additionnelles qui permettent d'avoir vraiment une adaptation à ses besoins, sa culture, son contexte, son organisation, et s'assurer qu'on a vraiment un service qui est complètement adapté à ses besoins.
Oui, mais ça boucle bien sur le sur la série, justement. On commence justement sur la normalisation, on termine sur la normalisation, cette capacité-là. C'est des très beaux outils. Je te remercie énormément de ton temps. Ça a été très intéressant, cet échange-là. J'en ai appris beaucoup au passage. J'espère que les gens aussi en ont appris autant que moi au passage de cette notion-là, comment on aborde la souveraineté et comment on articule ce changement. Et je pense que c'est un point de bascule au sens infonuagique où maintenant on passait de genre, comme tu mentionnais, tout dans le cloud, puis on espère que ça fera à un retour, à un équilibre entre les deux univers dans lesquels on recompose un peu, où on se réapproprie les outils technologiques pour arriver à faire notre mission.
Ben super, ben merci beaucoup, c'était une très bonne série.
Merci.